Bonjour ou bonsoir, selon le moment où vous écoutez. Ici Sens, l'émission qui cherche à introduire aux sciences sociales et essaye de donner un sens à l'actualité ou à des préoccupations plus générales sur le monde social. Si on écoute les commentateurs actuels ou si on écoute les prises de parole gouvernementales, le clivage droite-gauche serait le grand mort de 2017. Maintenant, l'échiquier politique serait séparé entre Macron, Mélenchon et Marine Le Pen, entre différents types de populisme ou face à un certain progressisme. Mais pourtant, malgré tout, les Français répondent quand même que Macron mène une politique plutôt de droite. Donc, soit le clivage droite-gauche est un zombie extrêmement tenace, ou soit c'est peut-être tout simplement une cible récurrente pour certains tenants d'une certaine droite. Napoléon III, en 1852, s'estimait au-dessus maintenant du clivage droite-gauche. Certaines personnalités socialistes qui ont viré à l'extrême droite, comme Marcel Déa, et exprimait aussi la mort du clivage droite-gauche face aux ennemis de la République et du peuple. Et De Gaulle, lorsqu'il était au pouvoir, disait qu'il régnait pour l'intérêt de la France et non dans l'intérêt d'une certaine droite ou d'une certaine gauche, cette sale République des partis. Ce qui veut dire que ce clivage a un sens pour les gens. Il a aussi un sens aussi pour comprendre le jeu politique. Il a un sens aussi, et c'est ça que je voudrais montrer, peut-être pour comprendre la dynamique politique. Est-ce que ce clivage ne serait pas plus pertinent pour comprendre une communauté sociale et politique en son cœur même? La notion de droite et gauche, telle qu'on les connaît, date de 1789. Elle correspond à la partition de l'Assemblée lorsque on discutait des pouvoirs qu'on donnait au roi au moment où nous cherchions à faire une monarchie constitutionnelle après la Révolution française. Ceux qui étaient à la gauche de l'hémicycle voulaient limiter le pouvoir du roi au profit de la nouvelle Assemblée nationale et cherchaient à acquérir de nouvelles libertés. Ceux qui étaient allés vers la droite estimaient qu'il fallait préserver le roi, qu'il fallait préserver certains principes de l'ancien régime pour ne pas brusquer la paix sociale. Est-ce que cette institutionnalisation ne révèle pas en fait des mouvements plus profonds au sein de chaque société politique? C'est cela à quoi j'aimerais au moins commencer à répondre. Je ne vais pas expliquer ici ce qu'est la droite ou ce qu'est la gauche. Très sincèrement, ça prendrait des émissions entières pour essayer de distinguer cela. En fait, ce que je voudrais essayer de montrer, ce serait plutôt que le clivage est toujours quelque chose de pertinent, que le clivage veut dire quelque chose en lui-même. Mais il faut essayer de comprendre alors d'où viennent les problèmes actuellement pour essayer peut-être de découvrir quelque chose. Une des premières choses, et c'est une phrase que vous avez sûrement entendue de nombreuses fois, la gauche fait une politique de droite. Souvent, lorsqu'on dit ça, cela veut dire qu'un parti qui est traditionnellement marqué à gauche soutient une politique associée à la droite. Par exemple, lorsque le Parti Socialiste, qui était connu durant les années 70-80 pour défendre des positions keynésiennes, c'est-à-dire une forte intervention de l'État contre l'organisation du marché, suit une politique, maintenant, sous Hollande, qui fait confiance aux institutions privées et qui parle, qui reprend des valeurs propres à la droite, comme celle de la responsabilité individuelle, cela fait un décalage. Lorsque la gauche, toujours ce même PS, recourt des mêmes méthodes armées pour maintenir l'ordre dans des manifestations, on associe ça à une politique de droite. Cela voudrait dire que, est-ce qu'il faut associer la gauche au PS? Est-ce qu'il faut associer une notion, la droite ou la gauche, à des institutions qui sont, en fin de compte, limitées par leur empirisme, par leur inscription dans une réalité. Parce que le parti est composé de certains types de personnalités. Or, si l'on analyse leur parcours, leur prise de position, par rapport au keynésianisme, par rapport à la politique économique à suivre, lorsqu'on étudie leur sociologie, lorsque l'on voit avec qui ils dînent, avec qui ils passent leur temps, en fait ce qui compose leur univers psychologique et social, on se rend compte qu'il est normal qu'ils tendent vers une politique alors plus au centre. Et ils ne sont considérés pas de gauche car ils ne font pas honneur à une histoire qui a composé la gauche. Ils ne font pas honneur aussi à une philosophie qui a composé la gauche, qui tente à créer l'égalité et qui tente à noyer peut-être, c'est vrai, l'individu sous des considérations plus sociales. Une autre grande phrase qui peut aussi amener à douter de ce clivage, c'est bien sûr quand on dit que l'extrême droite parle comme la gauche. L'extrême droite, et il ne faut pas l'oublier, c'était dans les années 60, 70, 80, un mouvement quasiment royaliste, hostile à la République, qui ne jurait qu'en fonction de la nation, que de la France, qui soutenait en plus des politiques économiques, même si ça n'était pas la question, soit favorables à des rentiers, soit favorables, dans le cas de Jean-Marie Le Pen, à un capitalisme quasiment ultralibéral, propre à une certaine sociologie, Jean-Marie Le Pen étant quelqu'un qui a fait fortune et qui n'était pas sympathique et qui n'avait aucune sympathie pour les communistes et toute autre pensée de gauche. Maintenant, la situation est très différente. Le Parti communiste n'existe quasiment plus, il n'y a pas de contre-modèle et surtout, nous faisons face à la mondialisation. L'extrême droite, en s'opposant à la mondialisation pour des raisons qu'elle va qualifier de culturelles, en s'opposant au mouvement de population, s'oppose aussi à un certain mouvement économique qui n'est pas après son principal problème. Mais avec ce discours anti-mondialisation, elle parle aux classes populaires et réactive alors une vieille opposition face aux élites qui gangrèneraient la nation de l'intérieur. Cette position de l'extrême droite qui flatte certaines populations d'extrême gauche ou de gauche tout simplement, elle se retrouve très souvent dans l'histoire. À la veille de l'affaire Dreyfus, de nombreux socialistes, comme Barrès, ou de nombreux républicains, comme Paul Déroulèdes, par nationalisme ou patriotisme, commencent à s'opposer à la République parlementaire, commencent à tomber dans un antisémitisme virulent, en pensant que c'est l'ennemi de la nation, et en associant tout autant le juif à la figure de capitaliste. Ce n'est pas parce que le discours ressemble ou s'adresse aux mêmes classes qu'il a la même logique qu'un discours, par exemple, socialiste ou anticapitaliste. On voit alors qu'il y a une différence entre la réalité des actions, la réalité des mouvements politiques et des discours, que la place sur l'échiquier politique. Ce qui veut dire que les discours actuels, comme l'évaluation des politiques menées, ne sont en tout cas pas assez précises pour pouvoir comprendre ce qui fonde la réalité et surtout la pertinence analytique du clivage droite-gauche. Un discours face à une classe sociale, c'est répondre à des attentes à un moment T, face à une crise, face à un problème ou face à une gestion. J'aimerais vous introduire peut-être à une méthode plus proche des sciences sociales. Plutôt que de penser par rapport toujours à l'actualité et par rapport à des grandes théories, il faut plutôt essayer d'analyser d'autres exemples, il faut essayer de les comparer. Je vais essayer remonter dans l'histoire pour essayer de voir s'il n'y a pas quelque chose dans le clivage, s'il n'y a pas un moment où on voit la pertinence de ce clivage et où on voit ce qu'il signifie. Malheureusement, pour des raisons de limite de temps, pour la préparation de cette émission et aussi de mes propres connaissances et des précisions par rapport à ces connaissances, je reste en France. Donc si sur la page de Transistor vous voulez commenter et me donner d'autres exemples, c'est volontiers. J'aimerais prendre le cas du radicalisme en France au début du XXe siècle. Pour ceux qui ne connaissent pas, le radicalisme est une tendance politique qui est apparue à la fin du XIXe sous la Troisième République. Ils se disaient républicains radicaux et se classaient à gauche. Et ils avaient chassé à la droite à partir des élections de 1880 ce qu'on appelait les républicains dits opportunistes, qui étaient la gauche vers 1870. Ces républicains opportunistes étaient la gauche était la force du changement par rapport aux monarchistes, qu'ils soient proches de l'ancienne famille Bourbon ou qu'ils soient bonapartistes. Ces républicains opportunistes soutenaient des grandes libertés, la liberté d'expression, la liberté de la presse, et souhaitaient une école ouverte pour tous. Mais dans la gestion quotidienne du pouvoir, ils s'opposaient assez vigoureusement au peuple qu'ils trouvaient ivrogne. Ils menaient aussi une politique favorable plutôt aux rentiers et une politique protectionniste qui soutenait et favorisait les intérêts des grands propriétaires agricoles et qui empêchait ainsi d'investir des capitaux nouveaux dans des institutions de développement sociaux ou dans ce qu'on pourrait appeler le début d'une protection sociale. Cette gestion trouva son paroxysme en 1890 sous le gouvernement dit de Méline. Et les radicaux s'opposèrent très fortement à cette politique. Les radicaux avaient été beaucoup plus anticléricaux, car ils pensaient que le cléricalisme était une menace par rapport à la raison et par rapport à l'enseignement laïque de la société française. Et ils étaient aussi beaucoup plus solidaires d'un point de vue social. Ils ont soutenu, comme avec une forte personnalité de ce mouvement, Léon Bourgeois, une pensée dite solidariste, qui pensait que la République devait incarner la logique de la fraternité. Ils défendirent, durant toute la fin du 19e siècle et le début du 20e siècle, le principe d'assurance vieillesse, qui sont le prototype de nos retraites actuelles. Leurs discours ont touché aussi bien l'élite du prolétariat comme la moyenne classe montante, et c'était une force extrêmement vigoureuse et qui s'appuyait sur une vraie base sociale. Lorsqu'ils sont arrivés au pouvoir, vers 1900, il y eut beaucoup de réformes, que cela soit la défense de la République face aux ligues d'extrême droite durant l'affaire Dreyfus. C'est aussi la loi de 1905 de la séparation de l'Église et de l'État. L'instauration de ces fameuses assurances vieillesse. Et finalement, aussi un impôt sur le revenu pour essayer de montrer que la République se souciait de la justice et de l'équité entre tous les contribuables. Mais, vers les années 1910 aussi, 1920-1930, ils ont été chassés plutôt au centre-droit par l'arrivée des socialistes. Les socialistes défendaient une nouvelle vision de la société, non pas une vision simplement républicaine d'un peuple de citoyens, mais une vision de classe qui n'était pas du tout compatible avec la vision des radicaux. La société est séparée en différentes classes qui sont obligées de s'opposer lorsqu'il y a l'apparition de l'industrie et des productions de richesses. Parce que une classe supérieure va s'approprier les moyens de production et le fruit du travail. Vous connaissez la théorie marxiste. Le discours des socialistes correspond plus ou moins à une réalité à l'époque. Il convainc une grande classe populaire et il mobilise alors de nouveaux principes, des nouvelles mesures, la baisse du temps de travail, une meilleure redistribution des richesses, aussi les nationalisations. Ce sont eux qui deviennent alors la gauche. Nous voyons alors qu'il y a véritablement un glissement à gauche, mais on pourrait nous objecter, vous êtes peut-être en train de nous dire que toutes les sociétés vont vers la gauche parce que c'est le sens du progrès. C'est pas du tout la question, et en plus ce serait complètement faux de penser ainsi. Prenons alors un autre cas concret de glissement vers la droite pour essayer d'affiner notre analyse. Je voudrais revenir en 1795 et 1815. Après la Révolution et après ce qu'on appelle la Terreur, même si c'est une notion construite et nous le verrons dans une autre émission, je tease pour la suite, il y eut un grand chaos gouvernemental. Un régime très mal connu nommé le Directoire menait une politique globalement modérée, mais en n'ayant aucune base sociale, aucun réel soutien, que cela soit populaire, que j'ai parmi les élites de l'époque, qui étaient soit plutôt monarchistes, soit avaient soutenu la République. Il y avait une instabilité gouvernementale permanente, il y avait aussi une instabilité sociale permanente, de nombreuses émeutes, aussi bien royalistes que populaires, menaçaient le régime en permanence, et pour que le régime se maintienne, il fallait fausser des élections. C'était un chaos permanent, tout simplement parce que les principes de la Révolution avaient chamboulé la société comme aucun événement auparavant. Et en 1799, un jeune général prend le pouvoir, Napoléon. Et il fait de nombreuses réformes qui s'inspirent autant des vieilles mœurs de l'Ancien Régime, comme par exemple le Code civil qui est incroyablement patriarcal et incroyablement pesant sur la structure familiale, que des principes de la Révolution. Son discours est empli d'un discours par rapport à la nation, par rapport au peuple, et il fait voter certaines libertés ou certains modes de gouvernement qui s'inspirent de ce que la Révolution proposait. Mais ainsi, en faisant revenir d'anciens principes au pouvoir, il rétablit un ordre et il remet en place de nombreuses personnes dans son administration qui venaient aussi bien de la Révolution, comme on peut penser à Fouché ou à Talleyrand par exemple, comme des personnalités de l'Ancien Régime qui étaient revenues et qui voyaient bien que la paix sociale, face à la crise qu'avait été la Révolution et la guerre contre toute l'Europe. On voit bien alors que face à, en tout cas, à des événements, face à une crise ou face à des dynamiques profondes, on peut avoir un glissement à gauche comme un glissement à droite. La notion de gauche et de droite vient d'une institution politique de la Révolution, l'Assemblée, et comment on se situe sur cette Assemblée. En fait, ce serait anachronique d'appliquer la notion de gauche et de droite avant 1789. Mais on voit bien que cela représente des dynamiques, et c'est cela que je trouve particulièrement intéressant. Le glissement à droite, si on se rend compte que lorsqu'il y a un glissement à droite, c'est souvent qu'une communauté sociale cherche à se préserver et cherche à défendre un ordre selon les principes qui la composent déjà. C'est-à-dire, par exemple, comme pour Napoléon, des notions de paix sociale, des notions de respect du père, donc de respect du roi, donc de respect du chef. La gauche, un glissement vers la gauche, c'est le moment d'un changement dans la vision du monde, dans la vision de l'ordre tel qu'il doit s'établir. C'est la volonté d'organiser la communauté sociale sur des principes qui sont extérieurs à elle ou qui commencent à différer. C'est peut-être pour ça que la gauche est très attachée à l'égalité, parce que l'égalité n'a jamais vraiment été appliquée dans nos sociétés. Et il faut essayer de comprendre un truc. Je ne porte aucun jugement moral sur ces questions. Je dis bien que c'est une logique soit d'adaptation ou de résistance qui fonde le clivage. Je ne cherche pas à donner des bons points en disant « tu es de gauche si tu t'es bien adapté » ou « tu es bien de droite si tu résistes ». Je dis juste que nous voyons bien que ce clivage ou que l'on parle de glissement vers la droite ou vers la gauche lorsque on s'adapte à une dynamique. En fait, ce que je veux dire, c'est que lorsqu'on observe l'histoire et qu'on décide d'en tirer peut-être une conclusion sur la théorie politique, on voit qu'il y a quelque chose de très différent par rapport à d'autres théories politiques. Ce qu'on appelle théorie politique, c'est de la philosophie politique, c'est souvent ce que l'on peut voir en philosophie, en terminale ou dans l'enseignement supérieur, lorsque on étudie Hobbes, Locke ou Rousseau, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que la bonne décision en politique ou ce qui fonde le lien social. Or, si on s'intéresse au clivage droite-gauche, on voit que cela fait appel à une autre pensée sur la communauté politique. On s'intéresse à la dynamique temporelle des sociétés politiques. Est-ce qu'elles décident de s'adapter à ce qui est extérieur? Est-ce qu'elles décident de se rétracter sur ses propres principes? Je pense que c'est une manière intéressante de commencer à penser les sociétés politiques. Et si on commence à appliquer ça à l'étude de l'histoire, on peut comprendre ce qui peut amener des transformations au sein d'une société. Est-ce que c'est parce qu'ils ont décidé de respecter des principes qui étaient intérieurs à un point quasiment fanatique? Est-ce qu'ils se sont adaptés beaucoup trop à quelque chose d'extérieur? Je pense que c'est que cela permet d'affiner la compréhension que l'on a d'une société politique à un moment. Pour cette raison, que je pense que notre bon vieux clivage droite-gauche résistera et reste toujours pertinent. Car au-delà des avatars empiriques qui se définiront de droite ou de gauche, ou qui ne se définiront pas de droite et de gauche, mais que l'on classera dedans, ce clivage permet de dégager des dynamiques, des directions. Pour vous donner des conseils de lecture, c'est simple, c'est très difficile. J'ai eu cette réflexion en filigrane de beaucoup de lectures par rapport à des livres qui parlaient de droite et de gauche, par exemple l'histoire des droites en France de Cinerelli ou de René Raymond, ou l'histoire des gauches de Jean-Jacques Becker. Mais j'ai eu des réflexions sur cette dynamique en lisant un papier de Nussbaum, une philosophe politique américaine, et d'autres prises de position du grand historien des droites, René Raymond. J'ai aussi retrouvé cette réflexion dans Socialisme et Sociologie de Durkheim, même si Durkheim est très marqué par une pensée évolutionniste, donc si vous voulez vous y mettre, prenez avec pincette une pensée qui peut être parfois un peu datée. Je vous souhaite une excellente journée et j'espère avoir donné un peu de sens à tout cela.